Bonjour, bienvenue dans la chronique animaliste animée par l'antenne nantaise de L214. Dans cette chronique, nous allons parler stratégie militante. D'après divers sondages, il y aurait en Suisse et aux États-Unis environ un cinquième de la population souhaitant la fermeture des abattoirs et la fin de l'exploitation des animaux pour la consommation de leur chair. Mais comment la fin de tout élevage pour la viande pourrait-elle arriver? Comment passer de la France de 2021 où la proposition d'une option végétarienne scandalise une partie de la population, à une France où nous nous trouvions plus acceptable de tuer des individus sensibles et conscients pour de simples préférences alimentaires. Nous vous proposons une œuvre de fiction, et plus précisément d'anticipation. Dans ce texte, paru sur le site internet militant L'Amorce, Frédéric Mesguich vous raconte la petite histoire de l'abolition de l'exploitation animale. Première partie, l'émergence d'un débat public sur l'abolition.
À la fin du XXe siècle, le mouvement antispéciste français apparaît. Ses textes sont très théoriques et se diffusent peu comparé à ce qu'il se passe dans les pays anglo-saxons. Ce n'est qu'avec la popularisation de l'usage d'Internet que les vidéos de dénonciation des conditions d'élevage et d'abattoir, comme le fait L214, parviendront à initier le débat public sur le bien fondé de l'exploitation animale. Tournant 2020, la lutte s'institutionnalise. Un parti animaliste, monothématique, donne de la visibilité et une nouvelle crédibilité à une demande publique d'action en faveur des animaux. La représentation des intérêts des animaux auprès des élus se coordonne autour du tout premier lobby animaliste, Convergence Animaux Politiques. Les grandes associations s'adressent aux entreprises et aux élus pour obtenir des réformes, telles que la fin de la production de la fourrure ou l'interdiction d'achat d'animaux sauvages pour les cirques. Mais la première victoire de taille, qui servira de modèle par la suite, concerne l'interdiction de l'élevage des poules pondeuses en cage. Les grandes chaînes de supermarchés et de producteurs acceptent une à une de ne plus se fournir auprès d'élevage en cage. L'intérêt économique pour l'élevage en cage ayant diminué, les députés votent l'interdiction de l'installation de nouvelles cages, puis, après un délai ayant permis à la filière de s'adapter, votent l'interdiction de la production et de la vente d'œufs issus de poules en cage. Chaque avancée est aussi l'occasion de raviver le débat sur la place donnée aux animaux dans la société.
La végéphobie continue de s'atténuer.
Pendant ce temps, le débat sur l'acceptabilité de l'exploitation animale continue. Les premiers signes ont été que, dès 2020, on parle de végétarisme à l'Assemblée nationale. Des associations écologistes, comme le WWF ou de protection animale, telles que la SPA, ont enfin osé promouvoir, d'abord timidement, le végétarisme. Au niveau végéphobie, la distanciation sociale par le choix d'une alimentation végétarienne ou végétalienne est d'autant plus réduite que tous les restaurants proposent désormais de nombreux plats végétaux. L'altruisme envers les animaux est aussi mieux compris et mieux accepté. Sous la pression des associations animalistes et à longueur d'interventions télévisées, de vidéos YouTube et de tribunes, le concept de spécisme est enfin compris par la majorité de la population aux alentours de 2030. D'ailleurs, les connaissances en éthologie et en philosophie se sont aussi largement améliorées. Les médias grand public traitent avec objectivité de la question animale. Les programmes scolaires suivent la tendance, avec l'introduction de l'éthologie au programme de biologie du collège et de l'éthique animale au programme de philosophie du lycée. L'introduction d'un enseignement spécifique de la démarche critique, d'abord en option puis en tant que matière à part entière, porte atteinte sur la durée et pour longtemps à la défense des pratiques au nom de la nature ou des lois de la nature, ainsi qu'à l'attachement et aux traditions de pratiques majoritaires inquestionnées.
À partir de 2025, l'ascension de l'écologie met fin à l'âge d'or de l'exploitation animale.
Mais les plus grandes réformes frappant l'exploitation animale au portefeuille viennent tout d'abord de l'écologie et non de l'animalisme lui-même. Amorcée en 2006, la dénonciation par les instances scientifiques de la pêche et de l'élevage comme étant des fléaux pour le climat et la biodiversité ne fait que s'amplifier. En 2025, les recommandations alimentaires nationales prennent enfin en compte le facteur environnemental. Ces recommandations conseillent alors de réduire de moitié la consommation de produits animaux, ainsi que de mieux renseigner le public sur les alimentations végétariennes. Les recommandations reconnaissent qu'un régime alimentaire végétarien bien mené peut être adapté à tous les âges de la vie et même améliorer la santé par rapport au régime alimentaire français moyen. L'année suivante, c'est-à-dire en 2026, L'affichage de l'impact carbone sous la forme de logos colorés est rendu obligatoire sur les produits alimentaires. Le gouvernement incite aussi à la réduction de la consommation de produits animaux en établissant des directives nationales pour baisser l'impact écologique de la restauration collective. Entre 2020 et 2040, les cantines passent d'une option végétarienne une fois par semaine à une option végétarienne à chaque repas, puis au menu végétalien par défaut 3 jours par semaine, avec option carnet pour les gens qui la demandent. Subissant des crises économiques à répétition depuis 2030, le gouvernement décide de réduire drastiquement les subventions pour les exploitations agricoles les plus polluantes d'une part et pour la pêche d'autre part, en raison de ces atteintes à la biodiversité marine. Une partie des subventions est reportée sur le développement des productions légumières, fruitières et légumineuses afin de renforcer l'indépendance alimentaire française.
La croissance du secteur de l'alimentation végétale.
De nombreuses exploitations céréalières et animales dépendent totalement des subventions. Le prix des produits animaux et des céréales qui les nourrissent double en l'espace de 10 ans. Le dérèglement climatique rend les rendements de fourrage et de céréales plus incertains que jamais et accroissent la pression sur les filières, causant la fermeture de nombreuses exploitations. En mer, la raréfaction brutale des poissons dans les océans fait exploser les prix et sensibilise le grand public sur la non-durabilité de cette consommation. L'alimentation végétale est de plus en plus la norme et les poissons, viande, laitage et œufs sont de plus en plus perçus comme des produits accessoires. De leur côté, les grandes marques s'adaptent bien, proposant presque toutes des gammes végétales, de viande de culture ou mixte. L'offre artisanale aussi bien qu'industrielle de fromages non liés à l'élevage rivalise puis dépasse celle des fromages à base de sécrétions mammaires.
Les 3 décennies de recul.
En 2038, les crises économiques s'enchaînent depuis au moins une dizaine d'années et ont renforcé les tensions sociales et entraîné l'accession au pouvoir d'un gouvernement autoritaire promettant de restaurer la grandeur nationale. Ce gouvernement entreprend de grandes mesures interventionnistes afin de lutter contre le changement climatique et le gaspillage de ressources, tout en visant à renforcer l'autonomie économique du pays. La dynamique vers la végétalisation globale de l'alimentation ne s'en retrouve ainsi que renforcée. En revanche, une recrudescence des actions confrontationnelles a largement inversé la tendance des années précédentes à la normalisation des idées abolitionnistes. Le premier événement ayant stoppé net le mouvement a été une initiative internationale nommée « La nuit des vitrines ». Frustrés de la lenteur d'évolution de la société, des partisans de l'action directe ont imaginé une grande action collective. Le 31 octobre 2041, 7500 vitrines de boucheries sont brisées. Des laboratoires sont pillés et les animaux qui s'y trouvant sont libérés. Des abattoirs sont brûlés. Sur les réseaux sociaux, un grand nombre d'internautes se félicitent que ces actions n'aient fait aucune victime. Mais les journaux tournent en boucle sur ces événements, en concourant au discours le plus alarmiste, propre à augmenter leur audience. Bien que la plupart des organisations se désolidarisent à demi-mot pour ces actions, les associations animalistes ne tardent pas à en faire les frais. Les locaux des associations et leurs dirigeants sont perquisitionnés. Leurs matériels sont saisis. De nombreux militants et militantes sont mis en prison dans les attentes de jugement qui mettent des mois à avoir lieu. Les crises financières, industrielles, technologiques, migratoires, militaires, la crise démocratique, la crise climatique et la crise sanitaire s'enchaînent et la culture et l'éducation ne sont plus la priorité du gouvernement ni de la population. Au cours des 30 années qui suivent, le progrès ayant imposé les animaux comme bénéficiaires valables de l'altruisme est peu à peu perdu. S'il reste globalement bien vu d'être végétarien pour sa santé et l'environnement, de nombreux responsables associatifs ou politiques se sentent obligés d'affirmer qu'ils ne sont pas végétariens et n'ont rien à voir avec les organisations terroristes antispécistes. En mai 2069, la révolte traverse toutes les couches sociales de la société contre un pouvoir trop centralisé et trop autoritaire. Le gouvernement est destitué et un collège est désigné pour consulter la population et établir de nouvelles règles de gouvernement.
Année 2070, le renouveau.
Les nouvelles élections amènent au pouvoir une génération ayant grandi dans une société où l'exploitation animale n'allait pas de soi et vit dans un monde où ses effets négatifs environnementaux et sanitaires sont clairement reconnus. Si les crises multiples sont toujours là, la société commence à se relever doucement, en particulier grâce à un fort renouveau démocratique et à la volonté de restaurer la culture, l'éducation, la solidarité et l'environnement. Dans cette tendance à retrouver les valeurs de la génération précédente, le végétarisme n'est plus moqué, mais reconnu comme un comportement responsable. Les plus grands progrès viennent dans ce contexte d'un large mouvement culturel promouvant l'empathie et l'altruisme, représenté par de nombreux artistes et intellectuels. Leurs livres, leurs tribunes dans les journaux, leurs vidéos et musiques sont appréciés par une nouvelle génération qui adhère de plus en plus nombreuse à l'idée que la zoophagie est la mère de toutes les violences et devrait faire partie du passé. Ce changement profond s'accompagne d'une reconnaissance de la convergence des luttes sociales avec l'animalisme. Il est exceptionnel que les personnes engagées dans les luttes féministes, queer ou antiracistes ne soient pas elles-mêmes véganes.
L'émergence de la revendication abolitionniste au Parlement et la massification du mouvement.
En 20 ans, de 2050 à 2070, le véganisme passe de 2% de la population à plus de 7%. La forte diffusion de la culture culinaire végétale ainsi que la démocratisation des viandes de culture y sont pour beaucoup. Il n'a jamais été si facile de ne pas participer à l'exploitation animale. L'abolition de l'exploitation animale est soutenue par 60% de la population. Dans les années 2080, les demandes de référendum sur l'abolition de l'exploitation animale se répètent chaque année. Les opposants à l'abolition mènent une campagne acharnée pour éviter que ce référendum puisse être mis à l'ordre du jour. Pendant ce temps, de nombreuses réformes sont proposées, avec succès. La pêche poissonnière, devenue une pratique économique anecdotique depuis la quasi-disparition des populations de poissons marins, est interdite au nom de son impossibilité à respecter les normes d'abattage les plus basiques. Pour les animaux terrestres, la fin de l'exploitation intensive et en bâtiments clos est votée en 2079, avec l'interdiction de nouvelles installations à partir de 2081 et un délai pour la mise en application. Il a été convenu dans les négociations que les éleveurs qui fermeraient leurs exploitations verraient leur salaire maintenu par l'État pendant 10 ans et bénéficieraient d'un programme d'aide à la reconversion. Ce programme, en apparence généreux, ne coûte en fait rien à l'État, étant donné qu'il s'accompagne de la fin des subventions qui maintenaient l'activité de ces élevages et l'activité des céréaliers qui fournissaient les élevages. Avant même la mise en application de la loi, le Parlement vote l'interdiction de l'enfermement dans des conditions ne respectant pas les besoins basiques des individus. Cette nouvelle réglementation interdit les hardes porcines de plus de 20 individus et les groupes de poules de plus de 30 membres par territoire. Ces règles sont extrêmement difficiles à appliquer pour le secteur de l'élevage, où on élevait non pas 30 poules mais plutôt 5000. Ne croyant pas à la mise en application des nouvelles réglementations, les exploitations n'ont pas profité de la période qui leur était donnée pour se mettre en conformité, et sont donc ouvertement hors la loi. Cette attitude est instrumentalisée par les animalistes politiques pour montrer que tant que les animaux d'élevage seront considérés comme des propriétés, il sera impossible de les traiter avec respect.
L'abolition.
En 2095, les sondages donnent une avance confortable aux votes abolitionnistes en cas de référendum. Une coalition de circonstances pour ce sujet est devenue une préoccupation majeure de la population, arrive enfin à imposer un référendum en 2099. Celui-ci prévoit l'arrêt immédiat de la délivrance de permis pour de nouvelles installations d'élevage, l'interdiction de la reproduction assistée en 2104 et la fermeture définitive des abattoirs 10 ans plus tard. La victoire au référendum pour l'abolition est écrasante. Plus de 66% des votants lui sont favorables. La France devient, en 2114, le 12e pays au monde à interdire la pratique de l'exploitation animale sur l'ensemble de son territoire et la vente des produits animaux. Elle rejoint ainsi les rangs des pays abolitionnistes qui comprennent entre autres la Suisse, les pays scandinaves et l'Allemagne, où l'abolition est effective depuis plus de 20 ans. Un siècle sera encore nécessaire pour que l'abolition légale de l'exploitation se diffuse dans l'ensemble de la société humaine et mette ainsi fin à ce qui restera le plus grand crime de l'histoire humaine, commis d'abord par nécessité, puis poursuivi pendant plus de 150 ans par habitude et au nom d'une idéologie suprémaciste, le spécisme.
Nous arrivons au bout de la petite histoire de l'abolition de l'exploitation animale. Pour terminer avec une note musicale, nous allons écouter la chanson de Guy Edry, Le roi des animaux.
Les tigres tuent les belles panthères, les poules zigouillent les vers de terre, les lions. les jolies gazelles, les chats dépouillent les oiseaux de leurs ailes. Mais de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin. Mais de tous les animaux, les plus forts c'est nous, c'est les humains. Nous on tue des lions, on tue des loups et on tue des agneaux. Les poules trop fastoches, on les bute par 20 dans leur cageot. On tue des hommes, des femmes, des vieux, des enfants à gogo. On peut tuer tout ce qui bouge, alors c'est qui les plus costauds? Oui, de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin. Oui, de tous les animaux, les plus forts, c'est nous, c'est les humains.
C'était Les Rois des Animaux par Guédré. Merci d'avoir écouté la chronique animaliste animée par l'antenne nantaise de L214. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique.